Bonsoir à chacun.
Je vous invite à ouvrir la Bible dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 27. Et combien c'est bon de savoir que quand le Seigneur croise le chemin de quelqu'un, ce n'est pas par hasard. Est-ce que vous avez cette conviction? Quand nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus a croisé le chemin de beaucoup de personnes. Mais toutes les fois qu'il a croisé le chemin de ces personnes, ce n'était pas un hasard. C'est parce qu'il avait bien voulu, parce qu'il avait surtout un plan de salut. Et Matthieu, chapitre 27, nous parle d'un homme qui a croisé ce chemin, qui n'a pas forcément, quand on lit les évangiles, il n'a pas forcément répondu. Et on ne sait pas, aujourd'hui encore, on ne peut pas savoir si cet homme est sauvé ou pas. Mais en tout cas, on voit que Jésus lui a tendu la main. Et il y a eu tout un questionnement dans la vie de cet homme. Cet homme, c'est Pilate. Matthieu, chapitre 27, on peut lire à partir du verset 11. Et il est dit ceci, « Jésus comparut devant le gouverneur, donc Pilate. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent ?» Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Vous connaissez peut-être ce passage ou peut-être pas. En tout cas, c'est question de juste avant la crucifixion de Jésus. Et l'homme qui a croisé le chemin du Seigneur à ce moment-là, une des dernières heures du Seigneur sur la terre avant qu'il puisse être mis au tombeau, c'est Pilate. Et quand on regarde la discussion que Pilate il a dans cet évangile, dans plusieurs passages que nous aurons l'occasion de lire, on se rend compte qu'il y avait toutes sortes de questions qui étaient là dans le cœur de Pilate et qu'il a saisi de cette occasion de rencontrer le Seigneur pour pouvoir les lui poser. Est-ce que vous n'avez pas peut-être dans votre cœur des questions que vous aimeriez poser au Seigneur? Comment vous vous comporteriez si le Seigneur Jésus était présent? Quelles questions vous viendrez sur votre cœur? C'est intéressant déjà de se poser cette question-là. Et j'ai relevé cette question qui, je crois, est la principale de toutes, cette question que Pilate adresse pas à Jésus, mais il adresse à la foule. Que ferai-je de Jésus? Que ferai-je de Jésus? Et ce soir, je voudrais qu'on puisse se poser, au travers de toutes ces choses que nous allons partager, se poser nous-mêmes cette question. Que ferons-nous de Jésus? Ce soir, nous devons nous prononcer. Que nous le voulions ou non, un jour, il sera fait dans le ciel en fonction de peut-être ce que nous allons décider ce soir. Que ferons-nous de Jésus? Et on ne peut pas rester neutre. C'est une question à laquelle on ne peut pas rester neutre. Il y a des questions auxquelles on peut heureusement rester neutre. Je veux dire, des questions bêtes, mais si, est-ce que je vais reprendre de la soupe ou pas? Je peux rester neutre. Ça ne va pas changer la face du monde. Par contre, c'est vrai ce que je dis. Surtout pour ceux qui n'aiment pas la soupe. Mais quand il s'agit de notre éternité, quand s'il s'agit de la personne de Jésus-Christ qui a été Dieu fait chair, venu sur la terre pour mourir au bois sur la croix et qui est venu pour apporter le salut à l'humanité, je ne peux pas rester neutre. Que ferai-je de lui? Est-ce que je vais faire comme cette foule qui a dit « crucifie » Je ne veux pas, je veux pas qu'il vive. Ou est-ce que je veux dire « Seigneur, je veux me soumettre à toi » Cet homme, Pilate, Il a posé différentes questions à Jésus. Ça montre une progression qu'il y a eu dans son cœur. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y a eu plusieurs étapes dans son cœur. Mais on voit bien qu'au début, il ne comprenait pas du tout qui était Jésus. Et on se demande même à la fin s'il avait bien compris qui il avait devant lui. Regardez avec moi au verset 13 cette question. Alors qu'il est en train d'entendre les accusations, les principaux sacrificateurs sont là en train de pointer du doigt Jésus. Et il lui dit, mais n'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent ? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il ferme la bouche, il dit rien. Il ne se défend pas. Alors je me posais la question, est-ce que Jésus a déjà ouvert la bouche pour se défendre des accusations, des gens qui sont venus l'éprouver ? Quand on lit les évangiles, on se rend compte qu'il y a plein de fois où le Seigneur Jésus, avec une sagesse incroyable, une sagesse divine, on peut dire que ça, il a répondu, il a fermé la bouche. Est-ce qu'il faut payer les impôts ? Sont venus le voir les pharisiens un jour. Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, en montrant la pièce avec l'effigie de l'empereur. Sagesse divine. Quand il demande, mais de quelle autorité fais-tu ces choses ? D'où ça te vient cette autorité ? Jésus leur pose une question, mais le baptême de Jean, est-ce qu'il venait du ciel ou est-ce qu'il venait des hommes ? Et là, ils étaient coincés. Vous lirez tout ça dans les évangiles, dans Matthieu 21. Vous voyez que Jésus, à chaque fois, a une réponse de sagesse incroyable. Et ce qui nous étonne, et ce qui étonne Pilate, je pense, dans ces moments, c'est qu'il a entendu sûrement parler de la réputation de Jésus, qui était quelqu'un de sage. Et le problème de Pilate, c'est que peut-être dans ces moments, alors qu'il ne connaissait pas vraiment, il avait seulement entendu parler, il pensait que Jésus, c'était un sage, et il était étonné qu'il ne le réponde pas avec sagesse à ces personnes. Est-ce que d'une parole, le Seigneur Jésus aurait pu fermer la bouche de toutes ces accusations qui montaient contre lui, qui en plus n'étaient pas bien construites, on verra par la suite, pourquoi l'amenez-vous pour que je le condamne ? Ah mais si on ne te l'avait pas amené, si on ne te l'avait pas amené, c'est qu'il ne serait pas un brigand. En gros, c'est dit comme ça. C'est une accusation lourde, hein. Je crois qu'aujourd'hui, un tribunal, n'importe lequel, il classerait l'affaire aussitôt. Mais on voit bien la direction, la sagesse de Dieu dans le déroulement de toutes ces choses. Il fallait, Jésus l'a dit lui-même, il faut que j'aille jusqu'à la croix. Il faut que j'aille jusqu'à Gethsémané, jusqu'au mont Golgotha. Il faut que ces choses arrivent, comme le dit l'Écriture. Il fallait, il a dit aux disciples d'Emmaüs, il fallait que ça se passe comme ça. Eux qui étaient dans l'incompréhension totale, la sagesse divine dit ces choses. Jésus est la sagesse divine incarnée. Il fallait que ces choses arrivent pour notre salut à nous. Jésus savait ce que Pilate ignorait. Il savait que ça ne sert à rien de discuter avec des gens qui sont animés par la haine. Vous avez déjà essayé de discuter avec quelqu'un qui est en colère ? C'est compliqué. Imaginez un instant que Jésus ait voulu même répondre. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Mais ils savaient que ça allait rien changer à leur état d'esprit, rien changer à leur cœur. Et peut-être ce soir, c'est important de nous poser la question, qu'est-ce qui anime notre vie ? Quelles sont les motivations profondes de notre vie ? Quelles sont ces choses-là qui nous poussent à réagir ou à agir dans notre vie ? Est-ce que c'est parce qu'on a la haine d'une personne et qu'on construit toute notre vie sur cette haine-là ? Est-ce que simplement c'est par jalousie qu'on réagit ? Est-ce que c'est par curiosité qu'on est venu à l'église ? Ah, je suis venu à l'église pour voir comment c'est. C'est peut-être bien, mais est-ce que ça suffit ? Ou est-ce que ce n'est pas important de venir entendre la parole de Dieu et de dire « Seigneur, je veux véritablement que tu me parles ». Ce chant nous invite à ouvrir notre cœur pour que Dieu puisse nous parler ce soir. Je crois que c'est ce moment-là où le Seigneur veut nous parler au travers de sa sagesse. La sagesse, l'intelligence humaine n'apporte pas la paix. C'est bien de pouvoir faire des études, c'est bien de pouvoir apprendre beaucoup de choses, mais ce n'est pas ces choses en soi qui nous apportent la paix. Ce n'est pas ces choses-là qui nous apportent la paix. La seule chose qui peut nous apporter la paix, c'est Jésus-Christ qui est la sagesse incarnée. Le plan de Dieu, il passait par la croix. Et la croix, la Bible dit, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ceux qui ont la foi ont accès à cette compréhension qu'il fallait que Jésus passe par la croix. Et je réfléchissais à cette vérité, Pilate, maintenant, là où il se trouve, on ne sait pas où il se trouve, mais qu'est-ce qu'il pense ? Est-ce qu'il pense que Jésus l'a bien fait ou est-ce qu'il pense que Jésus l'a mal fait ? Soit J'imagine le meilleur cas. Soit à la fin de sa vie, il s'est repenti, il a demandé pardon, il a reconnu que ce qui paraissait une folie aux yeux des hommes était en fait une sagesse de Dieu incroyable. Et il s'est repenti, il a accepté que Jésus est venu mourir pour lui. Soit, au contraire, il a refusé cela. Il a cédé, de toute façon c'est ce qui s'est passé, il a cédé à la foule, il a cédé aux demandes de la foule. Et soit, il est maintenant privé du salut, privé de la présence de Dieu. Et est-ce que vous croyez que dans ce moment-là, il pense toujours que c'était une folie? Là où il se trouve, s'il est en enfer, on ne sait pas. La Bible ne nous le précise pas. Et c'est bien parce que comme ça, on peut se poser la question. Parce que ça nous concerne aussi à nous. Cette folie aux yeux des hommes, elle est une sagesse aux yeux de Dieu. Et quel que soit l'endroit où il se trouve, il comprend que c'est comme ça. D'ailleurs, la Bible nous dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution. Par qui ? Par Jésus. Jésus est celui qui révèle la sagesse de Dieu. Jésus est celui qui nous montre combien Dieu est sage. Et qu'est-ce que nous ferons de Jésus ce soir? Est-ce que nous allons faire simplement un sage, un philosophe, un moraliste? C'est vrai, quand on lit les enseignements, moi j'aime beaucoup le serment sur la montagne, quand on lit juste ces enseignements-là, c'est quelque chose de fabuleux. Et on ne peut que se dire que ces enseignements sont sages, intelligents, posés, que toutes sortes de bons principes moraux. Mais on voit que Jésus va bien au-delà de tout cela. Et Jésus est une personne, oui, qui est plein de sagesse, plein d'intelligence, mais il nous propose encore plus. Quand on voit dans Jean chapitre 19, on peut le lire ensemble, une autre question qu'a posée Pilate à Jésus. Jean chapitre 19, le verset 9, on peut lire même verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Pilate passe de la compréhension de Jésus qui est un sage, il comprend qu'il y a quelque chose de plus, mais il lui demande, mais maintenant on va rétablir les rôles là. Tu vois, moi je suis en position de force, je suis le gouverneur romain. Et c'est moi qui ai l'autorité dans cette province de Jérusalem. C'est moi qui peux décider de te mettre à mort ou pas. Et Jésus lui montre très bien que c'est le pouvoir que tu as, c'est parce que Dieu a bien voulu te l'accorder. Mais si je disais un mot, on peut soupçonner ces paroles derrière toute cette compréhension, il suffisait que je dise un mot pour que les choses changent en un instant. Parce que Jésus est celui qui a toute autorité. Et quelle erreur aujourd'hui, dans beaucoup, malheureusement, d'églises, dans beaucoup de cœurs surtout, de croire que Jésus est simplement quelqu'un qui est soumis à notre autorité à nous. Je pensais à ce verset qui nous, dans Éphésiens chapitre 2, où il est dit, vous étiez morts par vos offenses, vous étiez morts par tous les actes que vous aviez faits. Pourquoi ? C'est expliqué par la suite, parce qu'on faisait selon la volonté de nos pensées. Parce qu'on était finalement nos propres maîtres. Quand on est notre propre maître, ce qui résulte de tout cela, même si on a l'illusion d'avoir du pouvoir, l'illusion d'avoir de la sagesse, l'illusion d'avoir toutes sortes de choses, il en résulte la mort spirituelle. La seule personne qui peut nous accorder la vie, c'est le Seigneur Jésus. Vous étiez morts par vos offenses, mais grâce soit rendue en Dieu, il y a la grâce de Dieu qui permet, par le moyen de la foi, d'être sauvé. Et ce salut nous vient de Jésus-Christ. Quelle erreur, je disais aujourd'hui, de considérer Jésus comme simplement un pion, un distributeur de bénédictions, quelqu'un auquel on vient prier dans la détresse, c'est sûr, et le Seigneur Jésus est bon parce qu'il est plein de grâce miséricordieuse, il veut nous aider dans la détresse, mais il ne veut pas rester simplement une aide, une roue de secours de temps en temps. Il veut être le maître de notre vie. Quand nous étions notre propre maître, ça conduisait à la mort, mais quand Jésus est notre maître, ça amène la vie dans notre vie à nous. Je réfléchissais simplement. Il a donné sa vie pour nous, le Seigneur. Est-ce qu'à cause de ça, nous ne devons pas, nous, donner notre vie pour lui? Ça ne veut pas dire nous, d'aller mourir à la croix. Il faut bien comprendre les choses. Ça veut dire offrir tout ce que nous sommes au Seigneur, être simplement utile entre ses mains. C'est à nous, c'était à Pilate, de reconnaître l'autorité de Jésus. Et son rang élevé qui a fait que cette œuvre qu'il a accomplie à la croix était particulière. Il était le Fils de Dieu qui s'est offert volontairement. Et c'est vrai que Jésus, à plusieurs reprises, on l'a vu dans les évangiles, il n'a pas hésité à s'abaisser, à s'humilier. Rien que le fait que Dieu prenne forme humaine, c'est une humiliation incroyable. Mais en plus, il s'est abaissé pour être serviteur. Quand il a nettoyé les pieds des disciples, par exemple. Quand il a fait toutes sortes de choses. Il est venu pour bénir ces personnes. Il n'a pas hésité à se soumettre. Mais il voulait rappeler à Pilate cette chose incroyable que, malgré tous ces actes qui nous montrent à nous comment nous devons nous comporter, c'est lui le maître, le souverain, celui devant lequel nous devons fléchir le genou. Et si nous ne le faisons pas maintenant, un jour nous le ferons, que nous le voulions ou non. La Bible dit que toute langue confessera que Jésus est Seigneur, tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Et combien nous avons intérêt à le faire dès à présent, dès ce soir. Fléchir le genou, bien sûr, c'est spirituel, c'est quelque chose qui se passe dans notre cœur quand on accepte de se soumettre à lui. En ferons-nous de Jésus un Seigneur, comme Pilate l'a fait? Jean chapitre 18, le chapitre d'avant, verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Et si Jésus répondait « Oui, je suis le roi des Juifs », Pilate aurait pu dire « Eh bien maintenant, j'ai une bonne raison de te crucifier parce que tu es un concurrent potentiel. » Mais ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire et on se rend compte que Jésus lui explique, d'ailleurs on peut lire la suite. « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Et Jésus lui répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux juifs, mais mon royaume n'est point d'ici-bas. » Jésus n'est pas venu amener un royaume physique au moment où il est venu sur la terre, à ce moment-là, n'est pas venu amener un royaume physique. Ça viendra un jour, par contre. Quand Jésus reviendra poser ses pieds sur la montagne des Oliviers et accomplir toutes les prophéties qui restent à accomplir. Il y en a déjà une bonne partie qui sont accomplies quant à sa venue première, mais à son retour prochain, il y en a beaucoup d'autres, et son retour encore d'après, enfin, il y a l'enlèvement de l'Église et le retour après sur le mont des Oliviers, il y a toutes sortes de prophéties qu'il doit accomplir. Mais nous devons nous poser la question, est-ce que Jésus est venu amener un royaume physique sur la terre? À ce moment-là, ce n'était pas son but. Son but, c'est d'amener ce royaume spirituel. Et je suis obligé d'en parler, parce que je pensais que c'est merveilleux, la naissance. Je viens d'avoir une petite fille. Excusez-moi d'en parler, je ne peux pas m'empêcher. Elle a 4 jours. Et je trouvais que c'est merveilleux, une naissance, c'est quelque chose de fabuleux quand on voit un petit être qui crie, qui pleure pour la première fois, etc., tout ce qui se passe. Mais Jésus a dit à un grand docteur de la loi qui est venu le voir de nuit, il a dit, il faut que tu naisses de nouveau, parce que quelqu'un qui veut rentrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Jésus est venu apporter un royaume, le royaume de Dieu. Et ce royaume est tellement réel que soit nous y sommes, soit nous n'y sommes pas. Que nous le voulions ou non encore, c'est toujours pareil. Soit nous sommes dans le royaume de Dieu, soit nous n'y sommes pas. Et si nous voulons y rentrer, le Seigneur a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut qu'il y ait cet acte merveilleux qui prenne place. Il faut qu'il y ait cette naissance nouvelle qui prenne place. Et comme la naissance physique, c'est merveilleux, une naissance spirituelle, c'est encore plus merveilleux. C'est un miracle encore plus grand, parce qu'on passe des ténèbres à la lumière. On passe du royaume de Satan, du royaume du péché, au royaume du Fils de l'amour de Dieu. Je pensais à cette actualité que nous voyons aujourd'hui où des gens, au nom de Dieu, essayent d'imposer un royaume, essayent de forcer les gens à rentrer dans ce royaume-là. Et ils étendent le royaume par la force, toutes sortes de violences qui prennent place, toutes sortes de choses qui presque nous écœurent même, qui nous font mal. Et quand nous considérons ce simple verset de la parole qui nous parle de Dieu, Dieu est amour. Est-ce que Dieu est amour correspond à cette actualité que nous voyons? Je crois qu'on a vite fait de faire la différence. Le Dieu que nous prêchons ce soir, c'est un Dieu d'amour. Un Dieu qui propose à la personne qui est perdue d'être sauvée. Un Dieu qui propose à la personne qui est malade d'être guérie. Un Dieu qui propose à la personne qui reconnaît qu'elle ne peut rien dans sa situation, qu'elle est totalement sans solution. Un Dieu qui propose de venir l'aider. Simplement, il nous dit, il nous encourage à reconnaître notre besoin de lui. Soumettez-vous, soumettons-nous Ô Seigneur Jésus, soumettons-nous à la personne de Jésus. Pilate, vous avez vu comment il esquive la question ? Jésus lui parle d'un royaume spirituel qui est là. Moi, je ne suis pas le roi d'un royaume d'ici-bas. Et Pilate lui dit, oui, mais moi, est-ce que moi, je suis juif ? C'est des histoires qui ne me concernent pas, ça. C'est pour vous, ces histoires. Est-ce que des fois, on n'a pas des choses, des pensées dans notre cœur qui font qu'on est en train d'esquiver un peu ce que le Seigneur est en train de nous dire ? Ah, mais moi, ça ne me concerne pas. Ah, moi, j'ai telle religion. Ah, moi, j'ai telle croyance. Ah, moi, j'ai telle connaissance scientifique. D'accord. Mais ton âme et Dieu, est-ce que tu as réglé ce qui va ensemble ? Est-ce que tu as réconcilié ton âme avec Dieu ? Ou est-ce que tu n'en as aucune idée ? Est-ce que tu n'as aucune assurance dans ton cœur ? On a lu tout à l'heure que la femme de Pilate, elle-même, elle est venue le voir. Elle lui a dit « Surtout qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. » Et vous savez que la Bible nous dit que ce qui se met entre nous et Dieu, ça s'appelle le péché. Le péché qui est là dans le cœur, c'est quelque chose qui met une séparation entre nous et Dieu. Et Pilate a laissé quelque chose se mettre en séparation entre lui et Jésus. Et alors que sa femme même l'a exhorté, que je pense que Dieu lui a donné ce songe afin qu'il ait un bon conseil et qu'il réagisse de la bonne manière, Pilate a refusé. Ce soir, nous avons cette liberté. Et de me poser cette question. Y a-t-il quelque chose entre nous et Dieu ? Est-ce que le péché est là ? Si oui, la Bible nous dit que si nous confessons notre péché, Jésus est fidèle et juste pour nous le pardonner. À cause de son sang, on l'a chanté. Combien de cantiques on a chanté ce soir qui nous parlent de ce moyen que Dieu a accordé pour que notre péché soit effacé. Y a-t-il quelque chose ce soir entre nous et Dieu ? Je remarque aussi, au verset 35, que... Alors non, je suis décalé. Au verset... Alors, j'ai plus le verset. Mais au moment où il leur dit « Qu'as-tu fait ?» Voilà, au verset 35, c'est bien ça. À la fin du verset 35, Pilate leur dit, lui dit « Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Vous savez que nos actions et nos paroles ont des conséquences. Vous pourriez trouver facilement des personnes pour expliquer les erreurs que j'ai faites. Et je pense que pour chacun d'entre nous, il suffit de ne pas aller loin, soit de trouver une épouse ou un époux, ou une maman ou un papa, et on va vite trouver quelqu'un qui va dire les choses qui ne vont pas. Et alors que ces personnes sont là en train d'accuser, et voilà cette parole que je vous citais tout à l'heure, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » C'est ça l'accusation qu'il lui donne. Et alors qu'il y a cette accusation qui pèse là, qui est sans consistance, il y a plusieurs personnes, par contre, qui témoignent en faveur de Jésus. Pilate et Hérode qui vont dire « Ben, on n'a rien trouvé en lui qui mérite la mort. » Quand on lit l'histoire, on voit que le brigand même qui est à côté de lui dit « Nous méritons, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Le centenier, les soldats qui assistent à toute la scène, ils disent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Plusieurs personnes, de nombreuses personnes sont là en train de dire combien Jésus n'a rien fait de mal, c'est pas l'endroit où il devrait être. Mais il y est quand même, et il y est volontairement, parce qu'il a choisi de nous donner ce moyen de salut. Qu'a fait Jésus ? Jésus, il a simplement donné sa vie pour effacer notre péché et pour nous réconcilier avec Dieu. Et il pose cette question, Pilate, et je finis avec cette question. Au verset 37, « Tu es donc roi ? » Jésus répondit, « Tu lui dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde. » Pour rendre témoignage à la vérité, quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Pilate finit avec cette question, et après on voit qu'il s'en va, qu'il sort, on voit qu'il est troublé, et on voit que finalement il va céder à la foule pour amener la crucifixion de Jésus. Tiens, on pourrait lire juste avant un vrai dernier verset dans les Actes. Est-ce que Pilate, il a fait ce qu'il voulait ? Il a fait ce qu'il trouvait bon ou est-ce qu'il n'a pas fait ce que Dieu avait permis qu'il fasse ? Actes chapitre 4, verset 26 nous dit « Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint fils Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, c'est bien précisé, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire quoi ? Tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » la crucifixion de Jésus, le procès qui n'en était pas un véritablement rempli de justice. Tout cela, Dieu l'a permis, parce qu'il avait décidé, par sa sagesse infiniment grande qu'on n'arrive pas à mesurer, à comprendre, il avait décidé de montrer son amour au travers de Jésus qui donne sa vie à la croix. Ce soir, que ferons-nous de Jésus? Voilà la question que je voudrais qu'il reste sur notre cœur, sur chacun de notre cœur. Parce que même si on connaît le Seigneur, c'est tellement important de jour après jour de dire « qu'est-ce que je vais faire de Jésus aujourd'hui ? Est-ce que je vais pas simplement m'en préoccuper ?» Pilate, c'est laver les mains. Mais est-ce que ça a changé grand-chose ? C'est bien de se laver les mains, mais ça ne change rien quant à notre éternité. Par contre, une chose qui peut laver notre cœur, c'est le sang de Jésus. Et si nous le considérons par la foi, si nous y croyons par la foi, et que nous laissons l'efficacité de ce sang faire son œuvre en nous, nous pouvons avoir le salut. Est-ce que ce n'est pas simple, la parole de Dieu ? Est-ce que ce n'est pas simple, l'Évangile ? Est-ce que nous allons ne pas nous préoccuper de Jésus ? Ou est-ce que nous allons dire, oui Seigneur, je veux t'obéir, je veux faire ta volonté, je veux, Seigneur, suivre tes commandements, je veux marcher dans tes voies parce que j'ai compris que tu es celui qui peut changer ma vie, tu es celui qui peut m'amener à cette nouvelle naissance dans ce royaume incroyable, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, comme l'appelle la parole. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux ? De goûter à ces choses ici-bas, parce que quand on est ici-bas, on est encore confronté à ce monde. Mais un jour, nous serons dans la gloire avec lui, et nous n'aurons plus aucune séparation quelconque. Nous pourrons le voir face à face. Quelle espérance merveilleuse ! Mais ce soir, il faut qu'on se pose la question. Que ferons-nous de Jésus ? Je voudrais qu'on puisse incliner nos fronts, fermer nos yeux, et réfléchir à cette parole, à cette question, que ferais-je de Jésus ? Les pharisiens, la foule même qui, quelque temps avant, avait dit « Hosanna », ont dit « crucifie », qui montrait combien leur compréhension de qui était Jésus était faible. Ce soir, est-ce que nous sommes comme cette foule ? Est-ce que nous ne voulons pas nous préoccuper de Jésus comme Pilate ? Est-ce que nous voulons dire comme les disciples, « Seigneur, tu as la parole de la vie éternelle, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme Pierre a pu le dire. Que feras-tu de Jésus, mon ami ce soir, que feras-tu de Jésus ? Ce soir, dans ton cœur, il y a cette décision. Tu ne peux pas rester neutre face à cette question. Est-ce que tu diras, oui Seigneur, je veux me soumettre à toi. Je ne veux pas me servir de toi, je ne veux pas utiliser que quand j'en ai besoin. Seigneur, je veux te donner ma vie. » Ce soir, c'est la question que nous devons nous poser et nous devons laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse, dans ces moments, nous montrer tout l'amour, toute la sagesse, toute la grâce, toute la bonté que Dieu a manifestée, une œuvre qui nous dépasse, une œuvre tellement grande que jusqu'à présent, nous en parlons. Jusqu'à présent, des milliers et des milliers et des milliers d'hommes ont traversé le monde, ont risqué leur vie, ont tout fait pour que cette bonne nouvelle puisse parvenir jusqu'à nous. Des hommes et des femmes ont prié, ont été persécutés pour que nous puissions entendre cette bonne nouvelle. Ce soir, nous avons l'occasion de l'entendre. Ce soir, Seigneur Jésus est là par son esprit et il a prévu ce rendez-vous pour que nous puissions entendre cette bonne nouvelle. Ce soir, que ferons-nous de cette parole ? Que ferons-nous de Jésus ? Que ferons-nous ? Merci Éternel. Merci parce que tu es ce Dieu qui prend soin de nous. Seigneur, tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité afin de nous accorder le salut. Seigneur, tu vois les personnes qui sont là ce soir, tu connais les situations. Tu connais, Seigneur, les craintes. Tu connais aussi les questions qui sont là dans le cœur. Éternel, je veux t'apporter chacun des personnes qui sont là et te demander, Seigneur, dans ces instants, de nous visiter par le Saint-Esprit afin que nous puissions ressentir ta présence. Tu vois la personne qui a besoin de confesser son péché. Tu vois la personne qui a besoin de confesser, Seigneur, qu'elle veut se soumettre à toi. Éternel, bénis-la dans ces instants. Fais du bien dans les cœurs de tous ceux qui te craignent, Seigneur, et que dans ces moments, nous puissions comprendre que tu es celui qui est souverain sur toute situation, sur toute circonstance. Tu es celui, Seigneur, devant lequel nous devons nous soumettre. Oui, tu as accepté volontairement. Tu as accepté de t'humilier. Tu as accepté même de mourir. Mais tu l'as fait pour que nous puissions être sauvés, Seigneur. Alors, oui, devant ta sagesse et ton amour, nous voulons fléchir le genou ce soir. Bénis, Seigneur, ces moments encore et fais du bien. Parle à nos cœurs par ton esprit. et que ta grâce nous accompagne. Amen.